Daf Mem Zayin, nous commençons les trois derniers mots de la page précédente, Etive Lechem Apanim. Donc nous avons vu la machloquette entre Rabba et Rav Chisda dans le cas où quelqu'un a fait cuire Miyom Tov l'Echol, c'est-à-dire un jour de Yom Tov, lorsque Yom Tov tombe un lundi, il a fait cuire des aliments, fait cuire du pain pour le lendemain, pour mardi, est-ce qu'il a transgressé Yom Tov ou pas? Rav Chisda nous dit que oui, il recevra Malkout, Rabba nous dit qu'il n'y a pas de Malkout. La raison de leur machloket, l'Agma nous avait expliqué, c'est Mishum Oil. C'est-à-dire, d'après Rabba, étant donné que peut-être des invités viendront le jour même, et qu'il a fini maintenant son repas, le repas de midi, mais peut-être que des invités viendront, si ces invités viennent l'après-midi, il a le droit maintenant de cuisiner, puisque ces invités qui peut-être viendront, trouveront de quoi manger chez lui. Donc on a le principe de Ohil, puisque peut-être des invités viendront, donc j'ai le droit maintenant de cuisiner, et au cas où les invités ne viennent pas, je consommerai cette nourriture mardi. Alors que d'après Rav Chisda, on n'accepte pas ce principe de Ohil, étant donné que les invités ne sont pas venus, donc je n'ai pas le droit de cuisiner. L'Agma continue avec une braïta. Etivé, c'est marqué Lechem Apanim. Le Lechem Apanim qui se trouvait, donc les pains qui se trouvaient sur le Shulchan dans le Bet Amigdash, qui étaient posés le jour de Shabbat et qui étaient mangés la semaine suivante, le Shabbat suivant, comme c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait un Nes, que le Lechem Apanim était encore chaud le Shabbat suivant. Et ce pain était partagé et consommé par les Kohanim. Nous dit la Mishnah, le Lechem Apanim nechal letish'a. Il est mangé Letish'a, donc une mention d'Af Mem Zayin, le 9e jour, Le'asara, le 10e jour, Le'achadassar ou le 11e jour. Le Parod, le Yuter, ni plus ni moins. C'est-à-dire, le Lechem Apanim, on devait le faire cuire avant de le poser sur le Shulchan. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour faire cuire le Lechem Apanim. Donc le Lechem Apanim était préparé un vendredi. Il était posé le lendemain sur le Shulchan, et la semaine suivante, Shabbat d'après, il était consommé. Donc c'était 9 jours plus tard. Donc Kedarko, une semaine normale, Letisha, Lechem Apanim est mangé le 9e jour, Nefa Be'erev Shabbat, Nechal Be'Shabbat Letisha. Donc il était cuit veille de Shabbat vendredi, et il était mangé le Shabbat suivant, le 9e jour. Chal Yom Tov Liot Be'erev Shabbat. Si un Yom Tov tombait un vendredi, à ce moment-là, Nechal et Shabbat Le'Asara, il était mangé Shabbat Le'Asara, le 10e jour, puisqu'il était préparé non pas vendredi mais jeudi, et il était mangé le Shabbat suivant, donc 10 jours plus tard. Shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah, s'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, c'est-à-dire Rosh Hashanah tombait un jeudi et un vendredi, nechal le Shabbat le chadassar, il était mangé le Shabbat suivant, le 11, puisque le lechem apanim était cuit à ce moment-là le mercredi. Il ne dochait ni le Shabbat ni le Yom Tov. Rashi nous explique que même au temps du Bet HaMikdash, comme la Gemara dit dans Rosh Hashanah, parfois, le Rosh Hashanah, il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, lorsque les Edim tardaient à venir. Bien que d'après ce calcul, nous dit Rashi, le Shabbat suivant tomberait donc Yom Kippour, Yom Kippour on ne mangeait pas. Donc Rashi nous explique que au temps du Bet HaMikdash, lorsqu'il y avait les 2 jours de Rosh Hashanah, c'était le 2e jour de Rosh Hashanah qui était le premier Tishri. Et donc le Yom Kippour tombait dimanche. Ou bien encore, nous dit Rashi, même si Yom Kippour tombait Shabbat, le Lechem Apanim était mangé le samedi soir, Motsaï Shabbat. Donc de toutes les manières, le Lechem Apanim était mangé le 11e jour. Donc on voit de cette Mishnah qu'on ne peut pas transgresser ni Shabbat ni Yom Tov pour faire cuire le Lechem Apanim. La Gemara demande via Marta tzorke Shabbat nasim biyom tov. Si comme nous l'avons dit auparavant, la Gemara avait rapporté dans la question que Rabba avait posée à Rav Chisda, sujet du Hérouf Tafshilin, Rav Chisda avait répondu que midoraita tzorke Shabbat nasim biyom tov. On a le droit yom tov de cuisiner pour Shabbat. Donc là la Gemara demande. Via Marta, si vraiment tu dis que Tzorke Shabbat Nassim Yom Tov, on a le droit de cuisiner Yom Tov, dire les besoins de Shabbat peuvent être faits un jour de Yom Tov. On a le droit de cuisiner Yom Tov, donc si Yom Tov tombe vendredi, on a le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Donc, comment se fait-il qu'on n'a pas le droit de faire cuire le Lechem Apanim le vendredi qui est Yom Tov, puisque le Lechem Apanim sera consommé Shabbat? C'est vrai que, comme nous l'avons vu, il y a une interdiction midérabanane lorsqu'on ne fait pas de Hérouf Tafshilin. Mais nous dit Rashi, nous avons aussi cette règle que nous avons vue à la fin de Maseret Iruvin, que En Shvut Bamigdash, dans le Bet Amigdash, les Chachamim n'ont pas fait de Xerot d'interdiction. Donc si c'est ainsi, pourquoi les Chachamim ont interdit de faire cuire le Lechem Apanim un vendredi qui tombe Yom Tov? Amarle, il lui a dit, Shvut Kerova Itiru, Shvut Rechoka Lo Itiru. Les Chachamim ont permis, lorsque c'est un Shvut Kerova, c'est-à-dire lorsque tu vas manger le lendemain. Mais pour manger une semaine plus tard, là les Chachamim n'ont pas permis. On dit, si tu veux, tu feras cuire le Lechem Apanim la veille de Yom Tov. La Gemara continue, le Rabban Shmuel Gamliel de Amar Mishum Rabbi Shimon ben Asagan. Nous avons un autre avis, qui est celui de Rabban Shmuel Gamliel au nom de Rabbi Shimon Asagan, qui dit que Dochet Yom Tov, Dochet Yom Tzom. Que le Lechem Apanim, on pouvait le faire cuire un jour de Yom Tov, mais on ne pouvait pas le faire cuire un jour de Yom Kippour. Si Yom Kippour tombait, donc un vendredi, on ne pouvait pas faire cuire le Lechem Apanim vendredi, mais Yom Tov, on pouvait le faire cuire. Donc, Maïka Lemema. C'est-à-dire, comment va-t-on expliquer d'Abraham Ben Asegan? Comment se fait-il qu'on ait doré un jour de Yom Tov, puisque ce n'est pas un Shvut Kerova, c'est seulement pour la semaine d'après? Alors, la Gemara répond, ben, appliqué, c'est là exactement la Machloket. Mar Savar l'impense, Shvut Kerova Itiru, Shvut Rechoka Lo Itiru. Les Rabban, pardon, Tanakama pense que Shvut Kerova Itiru. Les Chachamim ont permis de faire cuire, donc dans le Bet Amigdash, les Chachamim auraient permis de faire cuire le vendredi, même si vendredi tombe Yom Tov, pour le lendemain, pour Shabbat. Mais si c'est pour une semaine plus tard, Lo Itiru, les Chachamim n'ont pas permis. Umar Sava, alors que Rabban Shmuel Gamliel, au nom de Rabban Shmuel Segan, pense que Shvut Rechoka Nami Itiru, les Chachamim ont permis, même si c'est pour la semaine d'après, étant donné que dans le Bet Amigdash, il n'y a pas donc de Shevut, et on a le droit, comme nous l'avons vu, Minatora, de faire cuire les besoins de Shabbat pendant Yom Tov. Ce n'est qu'une interdiction. Midi Rabbanan, les Chachamim n'ont pas maintenu cette interdiction lorsque nous nous trouvons dans le Bet Hamikdash. L'Agma continue, mais cette fois-ci avec les Shtel Echem, les deux pains qui étaient apportés à Shavuot. Mettez Rav Mari. Shtel Echem, c'est marqué, les deux pains de Shavuot, Enan Echalot, n'étaient pas mangés. Lo Pachot Mishnaim, lo Yeter al Shosha. Pas moins de deux jours, et pas plus que trois jours, à partir du moment où on les a fait cuire. Ketzal. Yom Tov, on ne faisait pas cuire les pains de Shavuot, mais Nefot Erev Yom Tov, veille de Yom Tov, veille de Shavuot, on faisait cuire ces pains-là. Nechalot le Yom Tov, donc on mangeait le lendemain les pains de Shavuot, le deuxième jour, les Shnaim. Chal Yom Tov liyatachara Shabbat, si Yom Tov tombait un dimanche, donc on ne pouvait pas faire cuire non plus les petits, les deux pains de Shavuot le Shabbat. Donc on les faisait cuire le vendredi. Nechalot Yom Tov les Shlosha, on mangeait le pain les Yom Tov, donc à Shavuot le troisième jour. Ils étaient cuits vendredi et Shabbat et ensuite dimanche, donc ils étaient mangés le troisième jour. Nefishna dochelo et à Shabbat le Yom Tov. Étant donné que la préparation de ces deux pains ne pouvait pas on ne transgressait pas pour la cuisson de ces pains, ni Shabbat, ni Yom Tov. Alors la Gemara nous dit, Veya Marta, si vraiment tu dis que Tzorke Shabbat Nassim Bi Yom Tov, comme nous l'avons vu que Minatora, on a le droit de faire cuire les besoins de Shabbat pour Yom Tov, pendant Yom Tov. Donc, Hashta de Shabbat Bi Yom Tov Sharet, de Yom Tov Bi Yom Tov Mevayen, de la Gemara. Si déjà, ce qu'on a besoin pour Shabbat, on a le droit de faire cuire vendredi, si vendredi tombe Yom Tov. Alors, pour Yom Tov lui-même, à Shavuot, Mevayé, est-ce que la question se pose? Il est évident que pendant Shavuot, on a le droit de faire cuire les deux pains qui vont être mangés à Shavuot même. L'Agma répond, Shane Atam. C'est vrai, d'après le calcul, d'après ce que nous avons vu, on devrait permettre de faire cuire pendant Shavuot les deux pains, les Shte Alechem. Seulement, l'Agma nous dit, D'Amakra Lachem. La Torah a dit, on a le droit, et assez Lachem, on a le droit de faire cuire tout ce qui est pour vous, c'est-à-dire pour vous, et non pas, nous dit l'Agma, l'Achem, Velo, le Gavoi, pas pour le Bet Amigdash. Donc pour le Bet Amigdash, on n'a pas le droit de transgresser Yom Tov et de faire cuire donc des aliments, de faire cuire les pains pendant Yom Tov. L'Agmara termine en posant la question, mais d'après Rabban Shimon Gamliel, qui a dit au nom de Rabbi Shimon ben Hasegan que Dochet Yom Tov, que même la cuisson des deux pains, on peut transgresser Yom Tov, donc on pourra faire cuire les deux pains de Shavuot pendant Yom Tov. Donc, Maïkalemma, comment lui va expliquer le Pasuk Lachem, qu'a priori la Torah ne nous permet de cuisiner pendant Yom Tov que Lachem, que ce qui est pour nos besoins et non pas pour le Bet Amigdash. Alors, la Gemara répond, lui pense avoir la Kaba Shaoul, il pense comme Abba Shaoul, qui a expliqué Lachem différemment. D'Amar Lachem, Lachem velo l'Enochim. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, mais pour Lachem, pour vous, pour les Bnei Israël, et non pas pour les non-juifs. Pour les non-juifs, on n'a pas le droit de cuisiner pendant Yom Tov. La Gemara continue, Shalach le Rav Chisda le Rabba. Rav Chisda, cette fois-ci, a envoyé la question suivante à Rabba, Beyad Ravacha Baravuna, par l'intermédiaire de Ravacha Baravuna. Miamrina Noil. Nous avons vu que d'après Rav Chisda, on ne dira pas Oil. D'après Rabba, on dira Oil. Donc le principe de Oil, puisque j'ai peut-être une utilisation pendant Yom Tov, puisque peut-être des invités viendront pendant Yom Tov, ou comme nous avons vu ici, peut-être que je vais consommer un morceau de cette viande, donc j'ai le droit d'égorger. Alors nous dit Rav Chisda, voici une Mishnah, Vatnan, Yesh Choresh Telemecha, nous dit la Mishnah. Nous avons un cas où un homme peut faire un sillon, labourer un sillon, et dans ce sillon, Chayavim Alea Mishum Shmoné Lavim, il va transgresser 8 lavines par le simple sillon qu'il a fait. Comment ça? Achoresh, celui qui va labourer, qui va faire un sillon, Beshor Vechamor, il va utiliser pour la charrue un chor, un bœuf, Vechamor et un âne. Et nous avons une interdiction de la Torah de ne pas laisser labourer le chor et le chamor ensemble. Comme l'explique Da'atzekenim Ibalé Tosfot, quelle est la raison? C'est une des raisons pour laquelle la Torah interdit de faire labourer le taureau et l'âne en même temps, c'est que le taureau rumine et l'âne ne rumine pas. Donc le taureau qui est en train de labourer avec l'âne est tout le temps en train de manger, alors que l'âne, lui, ne mange pas, et donc il va souffrir de voir le taureau à côté de lui, le bœuf à côté de lui ruminer, et lui qui n'a rien à manger. Donc c'est pour cela une des explications pourquoi la Torah, les Balei Tosfot, a interdit de labourer avec Shor Vechamor Yardav. Donc si quelqu'un laboure, Beshor Vechamor, il y a déjà une première interdiction, Lotachosh Beshor Vechamor Yardav. Ensuite, Ven Mugdashim, si on parle dans le cas où ce Shor et Chamor sont Mugdashim, c'est-à-dire c'était des Korbanot. Et comme nous avons une interdiction de ne pas utiliser une bête qui avait été donc sanctifié en tant que korban, comme le Bechor. Pour le Chamor aussi, nous dit Rashi, c'était Kotche Bedekabait, bien qu'un Chamor, on ne peut pas le sacrifier sur le Mizbéar, mais on a offert sa valeur au Bet Amigdash, donc il y a une transgression, donc nous avons pour le Chamor l'interdiction de Meila, c'est-à-dire de tirer profit de ce qui appartient au Bet Amigdash. Et nous avons donc un troisième lave. Donc le premier, c'est Chor Vechamor. Donc de labourer avec un taureau et un âne. Le deuxième lave, c'est que le taureau est un korban, et donc on n'a pas le droit de travailler, d'utiliser un korban. Le chamor appartient au Bet Amigdash, il y a aussi une interdiction de Meila. Vekilaim Bekerem, il s'agit de quelqu'un qui, en labourant, en faisant ce sillon, va recouvrir quelques grains de blé qui se trouvent au milieu d'une vigne. Et donc il y a une interdiction de Kilaim. Donc ça c'est le quatrième là. Nous tournons la page, Shvi'it. Si on est la septième année, donc il y a une interdiction, Sadecha Lotizra, de ne pas semer ton champ pendant la Shvi'it. Élaborer, c'est un dérivé de Zoréa dans les dynimes de Shemitah. Beyom Tov, donc c'est la sixième interdiction, le sixième là, c'est un jour de Yom Tov. Et si c'est Kohen Venazir, il est et Kohen et Nazir à Bet Atouma dans un cimetière. Donc le Kohen a l'interdiction de rentrer dans un cimetière, le Nazir aussi. Donc il y a encore deux interdictions. Nous avons 8 interdictions pour celui qui laboure et qui ne fait qu'un seul sillon. Donc voici la question de Rav Chisda. Viamrinan Oil. Si vraiment on a ce principe de Oil, puisque je peux utiliser, je peux faire telle ou telle chose. Alors, Acharishal Olechaev demande Rav Chisda, sur l'interdiction de labourer pendant Yom Tov, il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Pourquoi? Oil vechazel et kisui dam tzipor, puisque je peux utiliser la terre pour recouvrir le sang d'un oiseau. Yom Tov, j'ai le droit de dégorger, de faire la shrita d'un oiseau. Et pour un oiseau, j'ai l'obligation de recouvrir le sang de cet oiseau. Donc cette terre, je peux en avoir besoin pour Yom Tov, pour recouvrir le sang. Et donc il n'y a pas de raison donc d'avoir un lave en plus de Harisha pendant Yom Tov, puisqu'il y a ce principe de Oïl. Amar Rav Papa Bar Shmuel. Rav Papa Bar Shmuel répond, c'est simple, on parle d'Avanim Mekourzalot. On parle ici d'Avanim de pierre. Rashi ne lit pas ici Mekourzalot, puisque Rashi traduit en général Mekourzalot comme des pierres pointues. Comme le rapporte ici Tosfot. Mais lui, Tosfot explique d'Avanim Mekourzalot, c'est-à-dire des pierres qui sont rakot, c'est-à-dire qui sont tendres. C'est-à-dire on ne peut pas les utiliser pour recouvrir le sang, il faut d'abord les moudre, les écraser, mais malgré tout, le grain de blé que nous avons vu ici peut pousser dans ces pierres-là, et donc c'est pour cela qu'il y a ici une interdiction de Yom Tov, puisque je ne pourrais pas l'utiliser pour un mitzvah de Kisui Adam. Mais la Gemara demande Ruyot les Kotcham, malgré tout je peux prendre cette terre, ces petites pierres, les écraser, m'en servir pour recouvrir le sang. La Gemara reprend, mais Ktisha b'Yom Tov Misharé, ça c'est sûr que c'est interdit la Ktisha pendant Yom Tov. Même si on nous a permis d'égorger, de prendre cette terre et de recouvrir le sang, mais on n'a pas le droit d'écraser des pierres pour ensuite utiliser donc cette terre, cette pierre pour recouvrir le sang. Alors la Gemara nous dit, mais Ruyot les Kotchan, Klachariyad, on peut le faire malgré tout Klachariyad avec un chinouï. C'est-à-dire on ne le fera pas comme on a l'habitude, pas d'une manière habituelle. Et donc, Minatora, c'est permis. Ce n'est interdit que Midérabanan. Et donc, on reste dans le din Minatora. Je peux utiliser ces pierres pour recouvrir le sang, puisque j'ai le droit, Minatora, de les écraser, les piler, Kelahariad, avec Shinouï, avec un changement, donc d'une manière inhabituelle. Et à ce moment-là, donc reste la question, comment se fait-il qu'il y a un lave, une interdiction pour Yom Tov, étant donné que Minatora, je peux utiliser ces pierres pour recouvrir le sang. Alors la Gemara nous dit, on parle Betsunama, on parle d'un rocher qui est très dur. Demande la Gemara, mais si Tsunama, Barzria, si c'est un rocher Barzria, est-ce qu'on peut semer, on peut planter quoi que ce soit sur un rocher? La Gemara répond, oui, on parle Tsunama Milemala, un rocher Milemala en haut, Veafar Tichwar Milemata, et on a de la terre mouillée Milemata en bas. Et donc, pour ce Afar Tichwar, on peut planter, donc le grain de blé risque de pousser. La Gemara dit, mais pour que les Mishum Afar Tichwar, à ce moment-là, revient la question, j'ai le droit de labourer, il n'y a pas de lave, puisque je peux utiliser le Afar Tichwar, cette terre, pour recouvrir le sang d'un oiseau que je vais peut-être, ou que j'ai la possibilité d'égorger. Donc par le principe de Oil, on devrait dire, puisque j'ai la possibilité d'égorger ces Yom Tov, et que je peux prendre ce Afar Tichwar, donc je n'ai pas transgressé en labourant ce sillon. Donc la question revient, comment se fait-il que je suis Chayav pendant Yom Tov? Et là, Mar Baravashi explique Betina. Il s'agit ici de Tina, c'est-à-dire Ndirashi, de la boue humide et bien mélangée. Et donc là, je ne pourrais pas l'utiliser pour faire Kisui Adam, pour recouvrir le sang. La Gemara demande, mais Tina Barzriaou, mais cette boue, je ne peux rien planter dessus. La Gemara répond, Bematunata. C'est-à-dire, Rashi nous explique on parle d'une terre particulière qui est humide et qui peut être utilisée pour semer, pour faire pousser quelque chose, mais ça ne va pas devenir de la terre, ça ne peut pas s'effriter. Et donc, je ne peux pas recouvrir de sang avec, c'est pour cela qu'il y a l'interdiction Be'yom Tov. Alors la Gemara continue et y va Abaye. Abaye va poser une autre question. C'est marqué à Mevachel Gidanaché Bechalav. Si quelqu'un fait cuire le Gidanaché, le nerf sciatique Bechalav dans du lait, Be'yom Tov, un jour de Yom Tov, Ve'ochlo, et il le mange. Quel est le din Loke Chamesh? Il recevra 5 fois Malkout. Pourquoi 5 fois? Loke Mishum Mevachel Gid Be'yom Tov. Il transgresse puisqu'il est en train de faire cuire le nerf sciatique Yom Tov qui ne peut pas être mangé. On a l'interdiction de manger le Gidanaché. Et donc il transgresse Yom Tov puisqu'on n'a pas le droit de consommer le Gidanaché. Veloke Mishum Ochel Gid. Il transgresse aussi au moment où il va consommer le Gidanaché. Nous avons l'interdiction de consommer le Gidanaché. Veloke Mishum Mevachel Basar Bechalav. Il transgresse aussi l'interdiction de faire cuire du lait et de la viande en même temps, puisque, comme nous explique Rashi, on pense, comme le mandama, que yesh begidim benoten tam, le guide anaché est considéré comme de la viande. Donc pour ce din-là, il a transgressé, puisqu'il fait cuire du lait et de la viande en même temps, veloke mishum mochel basar bechalav, lorsqu'il va le consommer, il transgresse aussi basar bechalav, veloke mishum avara, et il est loqué, il reçoit malkout pour avoir brûlé, pour avoir fait du feu, avant même de mettre sa marmite, donc préparer le feu. Il y a une interdiction d'allumer, pardon, plutôt, mishum avara, d'avoir allumé le feu. Donc nous avons 5 lavines, 2 à cause du guide anaché, 2 de bassar bechalav, et un dernier d'avoir allumé le feu. Et donc là vient la question. Viamrinano, et si vraiment on a le principe de Oil, donc on devrait dire à Avara, l'olechayev, que le fait d'avoir allumé le feu pendant Yom Tov, on n'a pas transgressé. Pourquoi? Oil de Chazel et Tzorko, étant donné qu'il peut utiliser, s'il a un besoin de ce feu, il pourra utiliser ce feu. Donc par le principe de Oil, même si lorsqu'il a allumé, il n'avait pas besoin de ce feu, mais d'après Rava, on devrait ne pas recevoir de Malkout, puisque il peut avoir besoin de ce feu, et donc le Oil lui enlève l'interdiction. Amarle, il lui a répondu, Afek Avara va El Gidanash, eh bien très bien, il suffit d'enlever l'Avara, c'est vrai, il n'y a pas de Malkout pour avoir allumé le feu, mais il y a Malkout pour le Gidanashé de Nevela. Puisque c'est un guide anaché, on parle d'une nevela, d'une bête qui n'a pas été égorgée. Donc il y a un lave en plus qui est le lave de nevela. Seulement, dit la Gemara, Vatane Rabbi Chiya a dit que dans les 5 lavim, il y en a 2 au moment où il va consommer cette préparation, Veshalosh al bishulo et 3 pour l'avoir fait cuire. Vimita, si on explique que c'est un guide anaché de nevela, à ce moment-là, on se retrouve avec 3 interdictions à l'achilato, mevayele, et seulement 2 sur le bishul. C'est-à-dire, encore comme on a voulu expliquer au départ, s'il y a 3 sur le bichoud, c'est-à-dire d'avoir allumé le feu, de faire cuire le lait et la viande, et de faire cuire aussi, nous avons vu le guide anaché pendant Yom Tov. Donc là, on comprend qu'il y a 3 interdictions sur le bichoud, 2 interdictions sur la achila, puisqu'il a mangé du guide anaché et il mange du bassar bechalav. Mais si on explique qu'en vérité, Malkout ici, ce n'est pas pour avoir allumé le feu, mais c'est pour avoir mangé du guide anaché de Nevela. Donc on a 3 lavim sur la achila. 1 parce qu'il a mangé le guide anaché, parce qu'il a mangé basar bechalav, et il a mangé aussi de la Nevela. Et seulement 2 lavim pour avoir fait cuire pendant Yom Tov du guide anaché, ça c'est sûr qu'il n'a pas le droit, pour avoir fait cuire du lait et de la viande. Alors la Gemara répond, il a afik avara, on va enlever avara, et on va rajouter aïl atse mukhtse. C'est-à-dire qu'il a utilisé des bois de mouktsé, et donc là c'est l'interdiction, le lave à cause des bois de mouktsé, il a utilisé ces bois-là, et donc nous avons 3 pour le bichou. Seulement demande l'agma mouktsé de Oraitaou. Mouktsé c'est une interdiction d'Oraita, c'est une interdiction midérabanale, là on nous parle de Malkout, Malkout c'est Minatora. Amar le'in, il lui a dit oui, dirtiv, comme c'est marqué, vaya bayom ashishi vechino et asher yaviou. Il viendra le 6e jour, voici le 6e jour, et vous préparez ce que vous mangerez, ce que vous prendrez pendant Shabbat. Et de là, on apprend, nous dit Rashi, c'est-à-dire qu'on doit préparer avant Shabbat, avant Yom Tov, tout ce qu'on a besoin. Donc bien sûr, le Passouk a déjà dit ce que vous avez besoin, vous allez le faire cuire. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous dire? La Torah vient préciser ce que tu n'as pas préparé à l'avance. Ceci est appelé une achana, une melacha. Et donc, à Zarate Me'acha, nous avons l'interdiction de Lotase Kol Me'acha, tu ne feras aucun travail. Donc, Lotase Kol Me'acha, donc c'est pour cela que puisque tu as utilisé du bois de Mouktsé qui n'était pas prêt, eh bien, tu transgresses une interdiction de la Torah, et donc il y a un 5e Malkout pour cela. Donc, c'est vrai que par le principe de Oil, on ne transgresse pas pour avoir allumé le feu, mais pour avoir utilisé du bois qui est Mouktsé. Amarle, il lui a dit, Veha, Atude Amart, et pourtant c'est toi-même qui a dit, Baemine Merafrizda, tu as posé la question de Rafrizda, Veamrela, et d'après certains, Baemine Meravuna, la question a été posée à Ravuna. Donc l'Agma va nous rapporter la question qui a été posée, et ensuite, la preuve donc de cette question, de cet enseignement, où nous allons voir que Mouktsé n'est pas Minatora, mais n'est que Miderabanan. Comment ça? Donc voyons voir la question. La question était la suivante. Si quelqu'un a pris un agneau, mefer, c'est-à-dire du achou, du de l'étang et pâturage. Veshachato, il l'a égorgé pour le korban tamid, beyom tov, un jour de yom tov. Mahou, est-ce qu'on a le droit donc de l'offrir, donc de prendre sa viande et de l'offrir sur le misbéar? A-t-on le droit d'utiliser une telle bête qui n'était pas donc préparée à l'avance, qui était mise de côté, donc à l'étang, dans les pâturages? Ou bien il y a une quelconque interdiction? Donc c'est ce que l'Agmara va nous rapporter. Y a-t-il un problème de mouktsé dans les korbanot ou pas? Alors tout d'abord, voici la réponse. Ve'ata martalan, et toi tu nous as dit que Amali, c'est ce qu'il m'a répondu à la. C'est velo abechor. C'est-à-dire, nous avons un pasouk que nous rapporte Rashi. Un pasouk dans Yechezkel, vese achat minatzon minamatay mimashke Israël. Donc, un c'est un agneau du troupeau, un sur un de 200, mimashke Israël, de ce que nous allons traduire, un Israël a le droit de consommer. De ce pasouk, nous apprenons beaucoup de halachot concernant les korbanot. Tout d'abord, que c'est velo abechor. On vient exclure le bechor. C'est-à-dire, on vient exclure un korban qui serait bechor. Puisque nous explique Rashi, le C peut être aussi bien mâle que femelle, alors que le bechor n'est toujours que mâle. Donc, puisque c'est marqué C, et on entend aussi bien mâle que femelle, ceci exclut le bechor. Achat velo maaser. Un agneau, velo maaser, c'est-à-dire, et non pas le maaser behema. Si c'est du maaser, c'est-à-dire lorsque nous avons 10 bêtes, on doit donner une bête korban pour le Beth Amikdash, on ne pourra pas utiliser un tel korban, un maaser behema, pour le korban tamid. Pourquoi? Puisque la Torah dit echad, un, c'est-à-dire un qui est unique et qui ne vient pas de 10, nous explique Rashi. Minatson, la suite du pasouk, c'est du tson, et puisque c'est marqué minatson, donc ça vient limiter et exclure certains tson, velo kolatson, nous dit Rashi, donc on vient exclure quoi? À Pilgas. C'est quoi le Pilgas? C'est-à-dire qu'il y a le Keves, la brebis, est appelée Ben Shana, c'est-à-dire la première année. Ensuite, la même bête dit, va prendre un autre statut, va devenir un Aïl, c'est-à-dire un bélier. Donc l'agneau deviendra un bélier par la suite. La première année, c'est considéré comme Keves, c'est un agneau. Le Haïl, c'est lorsqu'il a déjà commencé sa deuxième année, c'est-à-dire sa deuxième année. Et le Pilga, c'est celui qui a, c'est la bête qui a passé déjà un an, mais qui n'a pas encore un an et un mois. Là aussi, c'est exclu, puisque la Torah dit Minatson, Dutson. Donc on exclut le Pilga, qui lui se trouve dans ce temps intermédiaire. Minamataim, nous continuons d'Af Memchet. Minamataim, le pasouk nous a dit 1 de 200. C'est-à-dire, on apprend Mimotar, Shtemeot, Shtenishtairu, Bebor. Donc là, nous dit Rashi, on est obligé d'expliquer le pasouk, non pas sur les korbanot même, mais sur les Nesachim, c'est-à-dire le vin qu'on versait sur le Misbéar. Et on va dire de quel vin, quel est le vin que nous avons le droit d'utiliser? Un vin duquel il reste 200 dans le puits. C'est-à-dire, il y avait 200 fois plus que ce vin, et que même si c'était donc du vin de Orla, donc les trois premières années de cette vigne, malgré tout, la Orla aurait pu s'annuler dans ces 200. Et donc de là, on apprend, Mikan, le Orla Shebitela Bematem, que la Orla peut s'annuler dans 200, puisqu'ici aussi c'est marqué 1 pour 200. Donc nous pouvons prendre des Nesachim du vin s'il reste 200, c'est-à-dire même s'il y a un doute peut-être que ce vin est considéré comme Orla, mais s'il y a 200 fois plus, la Orla s'est annulée au vin qui était cachère. Et ce vin-là, on pourra le prendre. Mais si on nous dit Rashi, ce n'est pas de là qu'on apprend le din de Orla, que le Orla va s'annuler 1 pour 200, mais malgré tout, de là aussi, nous avons une source. Mimashke Israël, on apprend de ce mot qui est dans, donc marqué dans le pasouk Mimashke Israël, qui signifie Minamotar l'Israël, ce qu'un Israël peut consommer. Mais Kanamou, de là on a dit, Mevim Nesachim, Natevel, on ne pourra pas apporter des korbanot, c'est-à-dire des Nesachim, le vin qu'on versera sur le Misbéar, Minatevel, d'une récolte de laquelle nous n'avons pas encore pris Trumot ou Maasrok, ou les prélèvements, étant donné que nous avons l'interdiction de la consommer. Alors là, la Braïta continue, il nous dit, Yachol, lo yavi minamukze. Est-ce que on dira aussi qu'on n'amènera pas minam muktzé, c'est-à-dire de quelque chose de muktzé pendant Shabbat, Yom Tov, qui a été mis de côté, à Marta, hein? Donc là, la Gemara répond, matevel miyuchat shisuru gufo garamlo. Toute l'interdiction que le pasouk nous apprend, c'est seulement une interdiction de tevel, ou c'est le issour, c'est-à-dire le vin lui-même égorème à cette interdiction. Et donc de même, on pourra dire tout ce qui a, tout ce qui porte en soi une interdiction, kol shisuru gufo garamlo, là effectivement, on ne pourra pas l'offrir sur le misber. Mais yatsa muktzé, on va exclure le din de muktzé. Shein issur gufo garamlo. Le issur muktzé, ce n'est pas que la bête, le vin en soi et une interdiction de muktzé et la issur davar acher garamlo. Mais c'est Shabbat, c'est comme nous explique Rashi, le issur de Shabbat qui est là, qui vient sur la bête. Mais donc la bête elle-même n'a pas en soi, ne porte pas d'interdiction. C'est Shabbat qui est l'interdiction de la bête. Et donc, voici la réponse qui avait été rapportée. La question avait été posée à Rav Frisda ou bien à Ravuna. Quel est le din? Est-ce qu'on peut prendre un C du FR, du Harou, des pâturages, qui n'avait pas été préparé et l'utiliser comme Korban Tamid pendant Yom Tov? Donc la réponse est que oui, puisqu'il n'y a pas de problème de Mouktsé pour les Korbanot. Et donc là, la Gemara conclut et nous dit, Vei Amarta Isur Mouktsé Doraita, et si, comme nous avons voulu le dire au départ, que le Isur Mouktsé est un Isur Minatora, hein? Alors Mali Isur Goufo, Mali Isur Davar Acher, quelle différence? Si c'est le Isur Goufo, mais si c'est le Isur du Korban lui-même, ou si c'est un autre Isur, c'est-à-dire un Isur de Shabbat, puisque c'est une interdiction Minatora, le din devrait être le même. Veo de plus, toi-même tu as dit que Chiluk Melachot le Shabbat ven Chiluk Melachot le Yom Tov. C'est-à-dire, nous venons d'expliquer auparavant comment se fait-il que celui qui a fait cuire du guidanaché dans du lait, il reçoit 5 malkout, et nous avons expliqué, étant donné qu'il y a 2 interdictions, un Mishum Muktse et un Mishum Mevachel Guide Beyom Tov, il a fait cuire le Guide Beyom Tov. Mais si tu dis que la raison c'est Muktse, comme nous avons voulu le dire à la fin de la Gemara, nous retrouvons avec une question, puisque toi-même, tu as dit Chiluk Melachot le Shabbat ven Chiluk Melachot le Yom Tov. Le Shabbat, si quelqu'un fait 2 Melachot, il devra apporter 2 Korbanot, 2 Korban Khatat. Yom Tov, même si quelqu'un transgresse Bemezid 2 Melachot, il n'est chayav qu'un seul Malkout. Il n'y a pas Chilouk, on ne fait pas, on ne va pas compter les interdictions le jour du Yom Tov. C'est juste pour Shabbat, ou si quelqu'un a transgressé les 39 interdictions, il en a fait 39 comme nous l'avons vu dans Maseret Shabbat. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas le punir et lui donner Malkout pour Mouktse et pour aussi Mevachel Guide Be Yom Tov. Donc on revient à la question initiale. Comment se fait-il qu'il y a 5 malkout pour celui qui a fait cuire du guidanaché dans du lait le jour de Yom Tov? Et là, la Gemara termine et nous dit, Ela afik avara vailatse ashera. Diront, on va enlever l'interdiction d'allumer, comme nous l'avons vu, puisque c'était là la question. Avara, d'allumer le feu, il n'y a pas d'interdiction, puisque parfois, grâce au oil, puisqu'on peut utiliser ce feu pour d'autres utilisations permises à Yom Tov, donc il n'y a pas de transgression pour avoir allumé le feu grâce au principe de Ohil. Seulement, à Eila, tse Hachera, on va remplacer et qu'il a utilisé des bois de Hachera, des bois de Avodazara, Vazara, Meacha, et on l'apprend de là de ce pasouk, Veloïdbak, Viatra, Meuma, Menacherem. Donc tu ne garderas rien dans tes mains, Loïdbak, ne se collera pas, Viatra, Meuma, rien, Menacherem, de l'interdiction, même de la Avodazara. Donc si quelqu'un a pris du bois de Avodazara comme combustible, il recevra Malkout à cause de ce lave. C'est ainsi que la Gemara veut expliquer cette braïta. C'est marqué que celui qui me va tel guide anashi bechalav beyom tov, il reçoit 5 Malkout. Le cinquième, c'est d'avoir utilisé du bois de Avodazara. Amale Ravacha beride Rava le Abaye. Ravacha beride Rava pose une question à Abaye, donc une dernière question sur cette sugya. Venilkename mishum glotavit oeval betecha. S'il s'agit de Avodazara, donc il devrait y avoir aussi un autre lave pour l'otavit ou eva el betechat. Tu as l'interdiction d'apporter une abomination dans ta maison. Donc il devrait y avoir 6 lavim. Alors la Gemara termine en disant il a afik avara vaï la tse egdesh. En vérité, on va enlever le lave, c'est-à-dire le malkout, pour avoir allumé le feu, comme nous avons expliqué. Celui qui allume ne transgresse pas Yom Tov, puisqu'il peut peut-être l'utiliser pour ses propres besoins. Vaïlatse Egdesh. Il s'agit de quelqu'un qui a utilisé du bois de Egdesh, et donc du bois appartenant au Bet Amigdash. Là, il recevra le cinquième malkout, Vazara Me'achad, de ce pasouk-là, c'est marqué Vacherem Tisrefun Ba'esh Lotasum Ken Hashem Lokechem. Nous avons l'obligation de brûler tout bois de Avodazara, et la Torah nous dit, mais vous ne ferez pas ainsi. L'Hachem et l'Okerem pour tout ce qui appartient à Kadosh Baruch Hu. De là, on apprend que celui qui va brûler du bois de Hekdesh transgresse une interdiction de la Torah. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que Amevachel guide Anashe Bechalav Beyom Tov. Pourquoi, et qu'il le mange bien sûr, pourquoi reçoit-il 5 Malkout? Donc il y a d'abord Mevachel guide Beyom Tov, puisque le guide ne se mange pas, donc il n'avait pas le droit de transgresser Yom Tov pour cela. Il reçoit aussi Malkout parce qu'il a mangé le guide, parce qu'il est Mevachel, Bassar Bechalav, et parce qu'il a mangé du Bassar Bechalav, du lait et de la viande. Et le cinquième Issour, ce n'était pas Mishum Avara parce qu'il a allumé le feu, puisque comme nous l'avons vu, il y a le principe de Oil, puisqu'il pouvait utiliser ce feu pour faire cuire quelque chose de permis pendant Yom Tov. Donc l'interdiction, c'est parce qu'il a utilisé du bois de Hekdesh, et c'est de ce Pasuk, Lotasunken, Lachem Melokechem. On va s'arrêter là pour ce Dafla.